Chapitre 5. Première journée. Elle se réveilla difficilement le lendemain matin. Un étrange dégoût, qu'elle n'avait jamais ressenti, lui donnait envie de garder les yeux clos et de dormir indéfiniment. Il n'y avait rien qui l'attendait sur les rivages de cette journée, rien qui lui donnât envie d'y accoster et de mettre pied à terre. Le sommeil valait mieux, il vous noyait dans son obscurité, il vous cachait l'énormité du temps qui restait à vivre. Après tout, à quoi bon continuer ? Elle remua dans son lit, gênée par les draps de toile grossière qui irritaient sa peau, par l'odeur de viande bouillie qui lui donnait la nausée, par les bruits de la salle au-dessous d'elle qui lui laissaient deviner tout un univers de mouvements qu'elle ne voulait pas connaître. Elle se remémora avec une nostalgie poignante la douceur et le silence des aubes de la haute ville, le ciel encore mauve, couvert des traces des oiseaux légendes qui s'éveillaient. Pourquoi ne l'avait-on pas laissé passer sa vie à contempler ? Elle n'avait jamais rien demandé de plus. Elle se vautrait en sa demi-inconscience, dans cette complaisance qui lui mouillait les yeux, lorsqu'une autre partie d'elle-même s'éveilla à son tour. Celle qui porterait son A comme un étendard, celle qui serait courageuse et qui se mettait déjà en colère contre elle-même. « Si tu ne veux pas vivre, suicide-toi », se dit-elle. Et, en soupirant, elle ouvrit les yeux. Le spectacle était aussi lamentable qu'elle se l'était imaginé, mais, aiguillonnée par sa propre fierté, elle décida de ne pas s'y attarder. Il fallait qu'elle trouve un moyen pour couper court à son inclination contemplative, car si cela lui avait procuré d'intenses moments de paix et de jouissance lorsqu'elle vivait au milieu des belles choses, cela la plongeait maintenant dans une fascination désolée de tous les détails morbides de ce qui l'entourait. Personne ne pouvait vivre en ville basse en ouvrant, comme elle le faisait, son âme par le regard, car on risquait d'y voir s'engouffrer les taches et les lèpres, les médiocrités et les fêlures qui la rongeraient. Il fallait barricader son âme, enfermer ses souvenirs dans un coin inviolable et s'armer pour le siège permanent qui l'attendait. Une armée de choses laides était là, prête à la dévorer, et il fallait qu'elle lutte pour les tenir à distance. Elle se leva, se lava rapidement avec l'eau stagnante de la bassine, se sécha avec la serviette humide. Puis elle affronta son reflet dans le miroir. La blessure était encore rouge, mais ne suppurait plus. Le A se détachait, encore un peu gonflé, sur sa joue gauche. Elle fit effort pour ne pas pleurer et vit la petite lumière bleue de sa demi-lune scintiller timidement à son front. Elle redeviendrait jolie avec le temps. Pour l'instant, cela ne devait pas avoir d'importance. Elle détacha ses cheveux et alla chercher sa petite brosse de nacre dont le contact délicat lui fit du bien. Elle ne pouvait plus porter les tressages rituels de la haute ville, mais elle ne pouvait supporter l'idée de garder les cheveux épars à la mode de la ville basse. Elle aurait l'impression d'être déguisée, de retourner à l'état sauvage. Elle finit donc par opter pour un compromis. Ses cheveux ne seraient tressés en arrière que jusqu'à la moitié du crâne, et elle les laisserait tomber librement sur ses épaules. Le fastidieux travail de tressage la détendit un peu au début, puis finit par l'agacer. Elle n'avait plus le temps de consacrer une heure à sa coiffure, lorsqu'il lui fallait trouver de quoi vivre. Elle faillit abandonner, puis se força à finir. Les basses citoyennes, elle venait de le comprendre, laissaient leurs cheveux s'en mêler parce qu'elles avaient autre chose à faire. Comment n'y avait-elle jamais pensé ? Elle se promit de ne plus porter de jugement de caste à l'avenir. Cet aubergiste, finalement, n'avait pas tout à fait tort de lui dire qu'elle était arrogante. Quand elle eut fini, elle essaya de jauger objectivement le résultat. C'était étrange, elle n'avait encore jamais vu une personne coiffée comme ça, mais ce n'était pas laid, et cela exprimait assez clairement le caractère hybride de son identité. Moitié haute ville, moitié ville basse, cette coiffure s'accordait parfaitement à son A. Ce serait la coiffure de son nouveau personnage, la coiffure d'Aélénor. Elle chercha ensuite dans ses vêtements. Évidemment, elle avait plusieurs toges du bleu clair des étudiants, mais elle refusait de les porter. Elle les retaillerait et ferait coudre avec l'étoffe d'autres vêtements. En attendant, elle choisit une tenue de soir qu'elle avait empruntée à Stelle, une tunique en soie ivoire, ajustable par des lacets, qui lui descendaient à mi-cuisse, et un pantalon fluide assorti. Le tissu et la couleur lui paraissaient extraordinairement mal choisis pour la ville basse, et elle songea qu'il serait urgent de se procurer une garde-robe moins salissante et plus solide. Enfin, cela conviendrait pour aujourd'hui. Elle chaussa ses sandales, avec lesquelles elle glisserait à coup sûr dans la boue, et se rendit compte qu'elle avait faim. Comme elle ne pouvait pas sortir, elle donna trois coups dans le plancher et attendit. Une minute ne passa pas avant que l'aubergiste ne frappa à sa porte. « Entrez, dit-elle. Il ouvrit la porte et ils se dévisagèrent un court instant. Elle fut surprise de constater qu'il était moins vieux qu'elle ne l'avait supposé. Il avait même une certaine allure, malgré son bizarre accoutrement. Elle se demanda qui il était et comment il avait échappé au service des guildes. Visiblement, il était son propre maître et ne vendait son travail à personne. Mais elle repoussa cette question à plus tard. « Entrez, dit-elle, et fermez la porte derrière vous. »« Vous avez besoin de quelque chose ? » demanda-t-il. « Oui, mais je m'aperçois que je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Aelenor. »« Aelenor ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Aelenor, corrigea-t-elle. « Où avez-vous entendu mon ancien nom ?»« Des rumeurs, » dit-il évasivement. Il y eut un silence un peu embarrassé. « Et vous ? » demanda-t-elle. « On m'appelle Maître Keller. Enfin, Keller. » « Maître Keller, dit-elle, je vous remercie pour votre accueil et je vous demande de m'excuser pour mon emportement d'hier. »« D'avant-hier, » corrigea-t-il. Elle écarquilla les yeux et il se rendit compte qu'ils avaient une nuance très particulière, un gris tirant sur le violet. « Vous avez été très malade, » expliqua-t-il. « Une guérisseuse s'est chargée de votre blessure et je me suis chargée du reste. »« Ça a donc été une naissance difficile, » dit-elle avec un faible sourire. « Oui, » dit-il en lui rendant son sourire. On peut dire ça comme ça. Voulez-vous un peu plus d'argent ? Demanda-t-elle. Ça ne presse pas, dit-il. Il regardait derrière elle par la fenêtre, comme si l'intimité créée par la situation le gênait. Je n'arrive pas à réfléchir pour le moment, soupira-t-elle. Auriez-vous quelque chose à manger ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas, dit-elle. Une bouillie de pétales ? Keller la regarda en face, avec un air légèrement excédé. Vous n'êtes plus en Haute-Ville, mademoiselle. On ne mange pas de fleurs en ville basse, et je ne sais même pas à quoi ressemble votre bouillie. » Aelenor rougit. « Ce que vous voudrez alors, » dit-elle. Keller feignit de réfléchir un moment. « Un ragoût de lapin, une tranche de foie, une pâte de chafouin confite. » Aelenor ne put réprimer un frisson d'horreur. Keller savait très bien que, comme tous les hauts citoyens, elle était végétarienne, et il se livrait avec elle à l'un de ses tours favoris. « Comme vous voudrez, » répéta-t-elle. Keller éclata de rire. Elle le regarda sans comprendre, et il sentit qu'elle était sur le point de s'effondrer, ou, plus probablement, de se mettre en colère. « Allons, dit-il, je plaisantais. Je sais que la viande vous dégoûte, vous n'êtes pas mon premier client de la haute ville. » Elle s'était instinctivement redressée, et son regard, tout à l'heure docile, s'était assombri. « Excusez-moi, dit-il, je ne peux pas m'en empêcher, la réaction est toujours garantie. » « Il va me falloir du temps à m'habituer à votre humour, » dit-elle d'un ton glacé. « Je le trouve pour le moment assez grossier. »« Je vais vous chercher du pain, » dit-il. « Beaucoup de pain, car vous n'avez presque rien mangé depuis 2 jours. » Il sortit avec un sourire satisfait sur les lèvres, tandis qu'Aelenor se maudissait pour sa stupidité. Non seulement elle avait commis un impair, mais elle avait clairement montré qu'elle était vexée. Elle décida de se poster à la fenêtre, et lorsqu'il revint, apportant un plateau chargé d'une miche de pain et de 2 fruits d'arbre rouge, elle lui tournait le dos. « Je sais que vous ne mangez pas les fruits crus, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. » Elle ne se retourna pas, et il ajouta d'une voix perfide, « Pour votre délicat estomac d'herbivore. » Il posa le plateau sur la table et allait sortir lorsqu'elle l'arrêta. « Keller ? Pardon, Maître Keller ?» Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Par où puis-je sortir sans effrayer votre clientèle ?» Il se retourna cette fois et tenta de contenir l'agacement dans sa voix. « Où allez-vous ? » « Ça ne vous regarde pas. Je rentrerai ce soir. J'ai préparé quelques oboles pour vous payer d'avance. » « Vous n'allez pas sortir comme ça, seule dans cet accoutrement !» Aelenor le fixa très calmement. « Écoutez, Maître Keller, si vous voulez que nous restions en bons termes, il faudrait vous mettre quelque chose dans la tête. Je ne supporte pas qu'on prenne les décisions à ma place. » Keller se calma. « Et la dernière fois que ça vous est arrivé, vous l'avez prouvé, je sais. » Elle hocha la tête, satisfaite qu'il comprenne son message. « Cependant, si je puis me permettre, » continua Keller, « il n'est peut-être pas nécessaire de vous exposer systématiquement à la mort plutôt que d'accepter de demander de l'aide. » Aelenor soupira. « L'arrogance de ma caste, encore une fois, je suppose ? Peut-être, ou peut-être que cette arrogance-là n'appartient qu'à vous. » Et dans les 2 cas, je vous conseille de vous en défaire. Elle risque de réduire votre espérance de vie en ville basse. » Elle le regarda avec une sincérité qui le surprit. « J'essaye, » dit-elle. « Par exemple, commencez par accepter que je vous prête une grande chape de laine. Vous passerez davantage inaperçu. » « Combien vous devrais-je ? » Keller hocha la tête. « Ça ne marche pas à tous les coups pour l'argent et la gratitude. Il y a même ici des choses qui ne se monnaient pas. » Elle craignit de l'avoir blessée et se sentit tout à coup plus grossière et plus stupide qu'elle ne s'était jamais sentie. Cet homme connaissait mieux la manière dont elle pensait qu'elle ne connaissait la sienne. « Je ne voulais pas être insultante, » dit-elle. « Vous ne faites pas exprès d'être insultante la plupart du temps. Vous l'êtes sans vous en rendre compte. »« Pourquoi me manifestez-vous cette bienveillance ?» demanda-t-elle enfin. Keller eut un petit rire sombre. « Vous vous dites, ce primate fonctionne uniquement par l'appât du gain. Il y a quelque chose qui cloche. Mais le pire, c'est que vous avez raison. J'ai quelque chose à y gagner, même si cette chose ne vous concerne pas. » À Eleanor ne sut que répondre, mais Keller ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il disparut presque aussitôt et fit remonter la chape de laine par une servante. « Maître Keller vous fait dire qu'il faut aller au fond du couloir et que vous trouverez un escalier de service sous la trappe. »« Merci. » La servante ne cachait pas sa curiosité, mais à Eleanor n'avait guère envie de converser. Il s'avérait plus difficile que prévu de mener une conversation simple, à moins que ce ne fût en particulier avec Keller que le problème se posa. À Eleanor ajusta la chape sur elle et jugea qu'il avait eu mille fois raison de la lui prêter. Pourquoi y avait-il cette tension bizarre entre eux? Il avait des gestes gentils et tout à coup devenait agressif. C'était un comportement très irrationnel, qu'elle avait du mal à juger et qui induisait étrangement un comportement presque aussi irrationnel de sa part à elle. Elle se rendit compte que les rapports humains étaient tellement codés en ville haute qu'on ne sortait jamais vraiment du prévisible. Il était impossible, ou presque, qu'une conversation dérapât de quelque manière que ce fût entre deux hauts citoyens. Et, de cette habitude, à Eleanor avait faussement déduit qu'elle était à l'aise avec les gens. Mais elle n'était à l'aise qu'avec les gens de son milieu, dans le cadre rassurant d'un code qu'elle connaissait par cœur. Il suffisait de changer la réplique, et elle ne savait plus son texte. Il suffisait que Keller soit irrationnel, que son humour la surprenne, que son regard soit trop appuyé, et elle devenait pareille à lui, insaisissable, même à ses propres yeux. Elle emporta son sac, avec toutes ses maigres possessions, et suivit le couloir jusqu'à la trappe. Elle observa le mécanisme pour en comprendre l'ouverture, et n'eut aucun mal à accéder à l'escalier, ou plutôt à l'échelle, qui descendait dans la cave. À Eleanor se retint d'observer ce lieu sombre et puant, et ne fit que le traverser. Une volée de marches plus tard, elle était sur la voie, l'enseigne de la frontière plusieurs mètres derrière elle. Elle tourna la tête de tous côtés pour prendre rapidement ses repères. Elle connaissait la ville basse pour l'avoir souvent visitée, ou du moins elle en connaissait les quartiers commerçants et touristiques, ceux que les hauts citoyens appréciaient pour leur caractère pittoresque et exotique. Elle se souvenait d'une rue où les échoppes se succédaient, et où elle avait remarqué une forte concentration de tailleurs. Elle entreprit donc de s'y rendre, adoptant la démarche pressée d'une femme qui sait où elle va. Elle croisa quelques hauts citoyens, qu'elle traita exactement comme s'ils étaient invisibles, pour s'éviter le désagrément de constater qu'ils en usaient exactement de même avec elle. Au bout de quelques toges qu'elle croisa ainsi, sans que rien, absolument rien, se passât, elle comprit que ces silhouettes deviendraient peu à peu des éléments inanimés de son décor. Elle n'y prêterait pas plus attention qu'à des animaux ou à des statues. Ils étaient pour toujours sortis de son champ d'action et de parole. Elle s'amuserait peut-être même à observer leur feinte indifférence, voire à les provoquer. Elle avait elle-même appris, durant toutes les années de ses études où elle venait traîner en ville basse, à détourner les yeux dès qu'elle identifiait le A sur la joue des apostats. Le trajet jusqu'à l'échoppe du tailleur se passa sans difficulté. Elle entra sans frapper, comme il était d'usage ici. L'atelier était extraordinairement sombre et encombré. Une vieille odeur de cuir flottait épaisse dans l'air raréfié, et à Eleanor se demanda comment on pouvait supporter de porter sur soi des vêtements de peau animale. Il y avait cependant pêle-mêle parmi les vêtements finis et les patrons graisseux des rouleaux de toile et de tissu. Le tailleur, un homme d'une cinquantaine d'années, et qui flanquait force taloche à ses deux jeunes apprentis, était en train de récupérer des pans de tissu que les jeunes gens étaient prêts à jeter. « Bonjour, » dit à Eleanor. Le tailleur la regarda d'un air revêche. « Qu'est-ce que vous voulez ?» À Eleanor sortit de son sac une toge d'étudiant. Son tissu bleu si souple et si fin, légèrement chatoyant, paraissait briller dans l'échoppe comme un diamant au milieu de cailloux. « Seriez-vous intéressé par cet article ?» Le tailleur s'essuya les mains derrière ses chausses et palpa l'étoffe en réfrénant l'admiration qu'il ressentait. « C'est un tissu très fin et très solide à la fois, » dit à Eleanor. « Léger et chaud, le genre d'étoffe qu'on ne trouve pas facilement. » Le genre d'étoffe qui sort de la guilde des tisserands et dont les bas citoyens ne sont pas dignes, hormis pour les confectionner, dit-il. C'est ça. Combien tu le vends ? J'ai une proposition à te faire. Je t'échange cette toge contre une tenue complète, en bon état, bottes, tuniques, chausses, ceintures, bref, tout ce dont j'ai besoin. Et, en plus, tu découds une deuxième toge et tu me tailles des vêtements sur mesure avec l'étoffe. Tu pourras garder les chutes, ajouta-t-elle en jetant un œil aux apprentis récalcitrants. Le tailleur ne réfléchit pas longtemps. « Ça marche, dit-il. Sers-toi dans la boutique pour ce qui est de ta tenue de ville basse. Qu'est-ce que tu veux que je te taille ?» À Eleanor défit sa chape de laine et lui montra ses vêtements de soie ivoire. « La même forme que ça. » Le tailleur approcha ses mains pour tâter la soie. À Eleanor le laissa faire, avec répugnance. « Tu ne vends pas cette tenue-là » demanda-t-il. « Elle n'est pas à moi, » dit à Eleanor. « Dommage. Je te ferai le vêtement pour après-demain ?»« Très bien. Mais tu me laisses la toge tout de suite. » À Eleanor sembla réfléchir un instant, puis elle attrapa une paire de grands ciseaux de tailleur et coupa sa toge par le milieu. « La moitié de l'étoffe maintenant, l'autre moitié à la livraison, » dit-elle. « C'est régulier, » admit le tailleur. À Eleanor remballa sa moitié de toge bleue et chercha dans le Capharnaüm les divers articles dont elle avait besoin. Elle trouva tout et demanda au tailleur si elle pouvait se changer dans un coin de son atelier. Lorsqu'elle ressortit, elle était vêtue de bottes de cuir, de chausses noires, d'une chemise blanche et d'une chape de laine grise, et il lui sembla qu'elle était en train de jeter l'encre dans la réalité. Trouver un logement fut nettement plus difficile. Elle marcha une bonne heure afin d'observer ce qui l'entourait, ainsi qu'on le lui avait enseigné lorsque la bonne décision ne s'imposait pas d'elle-même. L'observation était toujours fertile, et ce précepte se confirma. Elle remarqua les mille détails de la pauvreté quotidienne, les maisons minuscules et insalubres, les immondices jonchant le sol, les enfants à moitié nus, livrés à eux-mêmes. Elle traversait tout cela avec un sentiment croissant d'étrangeté. Avait-elle vraiment déjà vu ce spectacle? Et l'avait-elle accepté? Il lui semblait aujourd'hui presque intolérable, et lorsqu'elle pensait à la haute ville, c'était maintenant avec plus de colère que de nostalgie. Elle l'avait quitté par amour de sa propre liberté, et non par compassion pour la ville basse, mais elle regrettait presque aujourd'hui les raisons de son choix. Elle s'enfonça un peu plus dans les quartiers d'habitation. Ceux-ci s'étendaient entre le canal et les manufactures des guildes, presque toutes concentrées du côté du port. Une fois passées les quelques rues commerçantes, où les enseignes des échoppes et des tavernes louches annonçaient leurs prix, on entrait dans un dédale de ruelles en escalier, où les maisons basses, bâties à la va-vite les unes contre les autres, formaient une géométrie incertaine et anarchique. Des impasses, des venelles si étroites qu'on pouvait difficilement y passer à trois de front, des tas d'ordures et d'anciennes barricades, le cheminement dans ce quartier était rendu difficile pour quiconque n'en connaissait pas les recoins. Des vieillards, assis sur de mauvaises chaises sur le pas de leur porte, la regardaient passer d'un œil mauvais ou éteint. Elle croisa un groupe de femmes qui se disputaient, plusieurs hommes encore jeunes, dépenaillés, qui la suivaient du regard d'un air lourd de menace. Elle fit instinctivement usage de l'esprit pour rendre sa présence la plus discrète possible, la plus terne, et se trouva bientôt dans un lieu presque désert. Le quartier, sur plusieurs rues, semblait abandonné. Elle était en train de se demander pourquoi, lorsqu'un choc sur l'épaule la fit pivoter. Trois hommes, dont l'un tenait une fronde, étaient postés à l'entrée de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. Ils ne paraissaient pas pressés, et se parlaient entre eux comme s'ils ne venaient pas de lui lancer une pierre. « Messieurs, » dit-elle d'une voix glacée, les trois hommes, qui s'attendaient probablement à ce qu'elle se mette à pleurer ou à les supplier, la dévisagèrent. « Regarde, dit l'un d'eux, c'est une chienne de la haute ville. » À Eleanor ne devait pas commettre d'erreur. Pour que le verbe fonctionne, il fallait que les trois hommes la regardent en face. Elle prit une profonde inspiration et leva la tête. Ils commençaient à se rapprocher d'elle, et elle n'avait pas de temps à perdre. Elle les laissa approcher jusqu'à une distance qui lui sembla propice, puis elle utilisa l'esprit pour les fasciner. Ils s'arrêtèrent, et elle ne leur laissa pas le temps de reprendre leurs esprits. Sa voix de verbe, grave et mélodieuse, retentit calmement dans la lumière bleutée projetée par sa pierre. « Je suis un personnage si puissant que je pourrais vous faire flamber comme des torches par le seul mystère de mon regard. Le danger qui émane de moi vous submerge et vous emplit de terreur, car vous savez qui je suis. La louve assoiffée de sang qui se répétera de vos entrailles et arrachera votre langue par son baiser mortel. » Je suis le cauchemar de chair qui vous aspire dans son tourbillon de douleur. Je suis votre maîtresse. » Elle fit une pause pour observer leur réaction. Ils semblaient choqués et reculaient instinctivement. À Eleanor, qui n'avait jamais usé du verbe avec un bas citoyen, trouva l'exercice affreusement facile. C'était comme s'ils étaient perméables à toutes les images que vous leur insuffliez. Vos mots s'enfonçaient dans leurs esprits, comme une lame dans la chair, sans rencontrer la moindre résistance. « Partez !» cria-t-elle. Et elle les regarda s'enfuir comme des lapins, avec un frisson d'aise. Elle n'avait pas mesuré à quel point elle était puissante en ce lieu. Elle reprit cependant son inspection du quartier abandonné, certaine que ses agresseurs ne chercheraient même pas à savoir où elle se trouvait. La concentration de chafouin paraissait anormalement élevée, et elle dut à plusieurs reprises utiliser l'esprit pour les tenir en respect. Puis, elle comprit. Les chafouins qu'elle avait toujours trouvés charmants étaient en réalité extrêmement nuisibles aux bas citoyens, qui n'avaient pas de moyens de les contenir. Et leur concentration dans ce quartier expliquait largement son abandon. Elle souriait de sa bonne fortune lorsqu'elle trouva une maison un peu moins délabrée que les autres. Une rapide visite lui indiqua que ses habitants avaient dû la quitter pour de bon, car il ne restait rien qui eût une quelconque valeur, pas même un lit ou une table. Le lieu était sale et nauséabond, mais il était à elle. Elle se promit de passer ses prochains jours à le rendre habitable, puis s'avisa que sa longue marche l'avait fatiguée, et elle reprit la route de la frontière.